tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons non pas pour poursuivre nos explorations squalographiques habituelles, mais pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le podcast en général et sur les requins en particulier. En effet, la dernière fois, je vous ai demandé de m'envoyer vos questions sur Twitter, @theultimaterico, ou encore sur le mail du podcast sharkparadepodcast@gmail.com. Alors je vous avoue que je pensais au départ les distiller bien tranquillement à la fin de chaque émission, et puis finalement vous m'en avez envoyé pas mal, et comme ça m'arrange parce qu'en ce moment je suis un petit peu chargé avec la fin du premier trimestre, les copies à corriger, les conseils de classe, les appréciations à mettre, eh bien faire une émission un petit peu plus réduite, faire une émission qui va se consacrer juste à répondre à vos questions et qui ne va pas m'obliger à préparer trop de films, à préparer trop d'extraits, eh bien ça m'arrange, je dois bien l'avouer, pour ce début du mois de décembre. Alors je vous préviens tout de suite, je vais essayer de limiter au maximum le montage pour garder une certaine authenticité dans les réponses. Donc je vais prendre vos questions les unes après les autres, sur Twitter, sur le mail, et puis je vais essayer donc le plus possible de développer, de digresser parfois au fur et à mesure de l'envie, sans avoir préparé trop à l'avance, si ce n'est peut-être certaines questions où j'aurais quand même un peu vérifié mes sources au préalable. Pour le reste, on va essayer de rester quand même sur quelque chose qui va être le plus possible naturel, vous permettre de commencer à découvrir l'artiste derrière le podcast, et en même temps d'explorer un petit peu plus avant vos questions, parfois assez drôles. Alors, comme je vais essayer de rester le plus naturel possible, je vais essayer d'éviter le surmontage de l'émission, comme je le fais d'habitude, pour rester le plus naturel possible. Le problème, c'est que vous allez m'entendre souvent bafouiller, répéter les mêmes mots. Alors, je le fais déjà quand j'écris les textes, alors ça vous donne une petite idée de ce que ça va être quand je vais être dans la pro la plus totale. Et globalement, de répondre le plus sincèrement possible à vos questions. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
Il y avait un requin chagrin, qui tournait dans les eaux profondes, dans un lagon du bout du monde.
Requin chagrin,
il y avait un requin chagrin, yeah. Les grands courants du fond des mers,
requin chagrin,
l'avaient déposé un matin, sous un rocher dans les eaux claires. Jamais ne nagent les requins. Toi sur le bateau de ton père, tu bronzais nu à ciel ouvert, des oiseaux survolaient tes seins.
Alors, commençons par quelques petites questions Twitter. Claramel nous demande quel est le plus vieux film de requins. Alors, faut pas croire que Les Dents de la Mer ont inventé le genre, mais faut quand même reconnaître que le film de Spielberg a vraiment mis en avant le requin tueur. La plupart des films antérieurs font du requin une menace plutôt secondaire, une péripétie au plus dans l'histoire. Alors le livre Bas de requin, qui a déjà un petit peu exploré la question, nous parle de films des années 50-60. Moi je remonterais même jusqu'aux années 30 avec le film White Death, un film australien de Edwin J. Bowen, qui raconte l'histoire d'une chasse aux grands requins blancs sur les récifs de coraux, et qui est peut-être le premier véritablement à faire du requin la menace centrale, et pas juste un adversaire périphérique du film. Alors si on cherche un peu plus en détail, on trouve la trace de requin aussi dans une adaptation de 20 milieux sous les mers qui date de 1912, mais bon, là je pense quand même que c'est essentiellement un élément de décor plus que le centre de l'action. Après, dans les années 50, il y a eu pas mal de films exotiques qui se passaient sous les tropiques, où en règle générale, on mettait les requins en gros sur l'affiche, mais ils apparaissaient que comme une espèce de menace périphérique. C'était surtout l'occasion de mettre des jolies filles au soleil et de jouer sur l'aventure tropicale, vaïnée et tout ça. Alors dans ce genre d'aventure exotique, on peut penser à Mara Maru avec Errol Flynn en 1952, ou Underwater avec John Russell, sur filmé par Howard Hughes en 1956, The Shark Fighters avec Victor Mature, Bref, à chaque fois des aventures exotiques, où le requin est réduit à un élément de scénario et non pas le centre de l'histoire. Autre question sur les films de requins, Mathieu nous demande si il y en a qui portent une véritable vision d'auteur, ou est-ce que ce sont exclusivement des films d'exploitation destinés à être rentables ? Alors soyons honnêtes, même Les Dents de la Mer, c'est un film d'exploitation à la base. C'est quand même l'adaptation d'un best-seller à succès, et un film qui va créer la mode des blockbusters. Il n'empêche que avec Spielberg, il y a l'introduction véritablement d'une vision d'auteur. Alors je vais être honnête, les trois quarts, pour ne pas dire les 9/10 des films de requins, ce sont quand même des bandes d'exploitation pour vidéoclub qui veulent s'en foutre plein les fouilles le plus vite possible. C'est bien légitime. Mais est-ce qu'il peut y avoir des films avec une vraie vision, un film de requin tueur? Moi je dirais que c'est surtout en fait dans les documentaires, et notamment dans tout un tas de documentaires qui essaient de présenter les requins sous leur meilleur jour, voire carrément de les défendre. Et d'ailleurs en faisant des recherches, je me suis aperçu que ce genre existait depuis les années 50, puisque j'ai trouvé la trace d'un film de 1956, d'un certain Jack Rogers, s'appelant « These Sharks Need Protection », qui est un documentaire qui encourage les pêcheurs de requins à faire attention à la conservation de l'espèce, et qui prend pour une fois le parti des requins. Alors, on traitera pas des documentaires dans ce podcast, mais il y en a vraiment de très très bons qui permettent de découvrir l'habitat du requin. Et je pense que c'est ce qui permet le mieux d'avoir une vision d'auteur sur cet animal, en dehors éventuellement des films qui sont des purs films d'horreur. Je pense à des films comme 700 requins dans la nuit de Laurent Balesta, qui est sorti je crois cette année, et qui est vraiment magnifique pour découvrir un petit peu cette espèce. Ou encore Les Seigneurs de la Mer de Rob Stewart en 2008, qui dénonce notamment la pêche aux requins intensive. Et à chaque fois, on sent quand même l'amour de gens qui sont passionnés par la plongée, par la vie animale. Je pense que c'est là qu'on va trouver le plus facilement des films d'auteur. Il y en a bien d'autres, des plus anciens. Je reviendrai peut-être un jour sur un épisode complet sur ces questions, mais il faudrait que je les visionne tous. Il y en a vraiment des magnifiques. Après, pour ce qui est des films d'horreur, je pense que oui, il y a une vision d'artiste dans Les Dents de la Mer, peut-être dans des films comme The Reef, mais globalement, ça reste quand même toujours l'idée que le requin est une menace, et c'est pour ça qu'on va voir le film. Alors, toujours sur les films de requins, Max Aubert me demande s'il existe à ma connaissance des films de requins français. Mais oui, tout à fait, Les Sous-doués en vacances. C'est même en gros sur l'affiche. Non, plus sérieusement, je ne crois pas qu'il existe de films de requins français. J'en ai pas vu, en tout cas. J'en ai vu des Italiens, bien sûr, des films allemands même, des films turcs, des films japonais, des films mexicains, des films américains à pléthore, des films indiens, on a même chroniqué, mais pas de films français. Le cinéma français est toujours frileux à s'attaquer aux vrais sujets qui passionnent le public. C'est un petit peu dommage, mais imaginez Christian Clavier dans un film de requins. Ouais, Kev Adams se faire bouffer par un requin. Je vais savourer. Pour en rester sur les films de requins, Hakim Madadi tient à remarquer que si Jaws le premier du nom est le meilleur, Jaws 2 l'a plus marqué parce qu'il possède plus de scènes marquantes. La nana au gant qui se fait gober par le requin, le fils de Brody évanoui dans l'eau, les jeunes qui se font jeter de leur bateau, je rajouterai l'hélicoptère qui se fait bouffer. Et comment expliques-tu que celui-ci plaît moins que le premier ? La réponse est double. Le premier, c'est Spielberg. Ça a été un choc quand le film est sorti. Et le 2, alors dans mon souvenir, ça fait assez longtemps que je l'ai vu. Une bonne dizaine d'années, mais j'en ai un bon souvenir. Et j'attends avec impatience quand je vais le tirer parmi les films de requins. C'est plutôt un bon film. Le film de Jan Oswark est un film très efficace, mais c'est une suite. Comme le Superman 2, par exemple, c'est une suite assez fidèle au premier, qui reprend la plupart des scènes marquantes, qui reprend les acteurs. On a presque certaines scènes qui sont un petit peu à l'identique, notamment quand le chef Brody s'affole et n'est pas écouté par les autorités locales. Ça reste un très bon film. Mais sa limite, c'est qu'il y a le 1 avant, qui lui a véritablement créé le genre, créé le choc. Donc, il faudra que je le revoie. Je pense que quand on le tirera, ça sera un film intéressant à analyser. C'est un film qui est aussi beaucoup passé à la télévision. Donc je pense aussi c'est pour ça qu'on en a, si on a grandi notamment dans les années 80, 90, on en a un bon souvenir parce que c'était une sortie régulière. Je serais impatient aussi de voir le Jaws 3 finalement. Là aussi, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Je sais qu'il a des défenseurs. Je pense que je vais sûrement plus l'apprécier maintenant que quand je l'ai vu initialement. En fait, plus j'y repense, plus je me souviens à la fois des trucs un peu kitsch et en même temps des bons souvenirs que j'ai pu en avoir. Donc voilà, j'ai été très très sévère avec Jaws 4 et en le revoyant, j'ai vraiment été extrêmement ennuyé par ce film et en colère même pour la médiocrité de l'ensemble. Je pense que les trois premiers Jaws, le 2, je suis assez confiant. Le 3, probablement je vais le revaloriser un peu. Alors, Ron Kenobi de l'excellent podcast VHS et Canapé me demande s'il existe à ma connaissance un film dont le prédateur serait des roussettes. Alors oui, mais il s'agit un peu accidentellement de films où, notamment dans des films italiens, on prend des documentaires animaliers pour figurer les requins. Et en fait, comme on prend des stocks de documentaires animaliers, dans le lot, sur certains plans, on peut distinguer clairement que les requins, c'est pas toujours des grands blancs, voire c'est juste des roussettes filmées un peu en gros plan. Mais bon, le pauvre roussette, pour l'instant, n'a pas été encore considéré comme une menace ultime. Le grand blanc tient la rampe. Après, le requin Mako, le requin Bulldog, même le requin Gobelin, le requin Marteau apparaissent ponctuellement dans les films, mais c'est quand même toujours le grand blanc qui est la vedette. Mais comme dans l'ensemble du cinéma, c'est toujours le grand blanc, mâle, cis, hétérosexuel, qui a la vedette.
Toi mon petit copain, le corps de ville et bain, tu n'oses plus te baigner dans la mer. À cause de ce requin, les Américains ont inventé pour faire peur à ton père, moi le gentil dauphin.
Alors on m'a aussi posé quelques questions sur la fabrication du podcast et sur mes goûts plus personnels. Alors, si je n'avais pas fait ce podcast sur les requins, quels autres thèmes m'auraient intéressé à traiter, me demande Ben F. Cinéma ou autre sujet? Alors oui, il y aurait plein de thèmes que j'aurais adoré faire, que je ne désespère pas d'ailleurs de faire un jour dans le domaine du cinéma, notamment de m'attaquer à James Bond, à Godzilla. J'aimerais bien aussi travailler sur la musique de film, je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard, parce que j'ai des envies particulières, je suis en train un petit peu de réfléchir à quelque chose dessus. Alors oui, il y a plein de sujets qui m'auraient intéressé. Sujet historique aussi, parce que mine de rien, derrière les bêtises que je peux raconter, j'ai quand même une formation d'historien à la base, et il y a d'excellents podcasts sur l'histoire, parler de tous ceux de France Culture ou de France Inter, je pense à Passion Médiéviste par exemple. J'aurais bien aimé faire quelque chose peut-être sur la Belle Époque, sur les années 1900. C'est une période que j'aime beaucoup. Et la limite elle est là, elle est aussi sur le temps que je peux passer sur la préparation des podcasts en ayant un boulot et une vie de famille et une vie sociale à côté. Donc je peux pas faire 25 000 trucs à la fois, d'autant que je participe toujours au podcast Nanarland. Une petite remarque là-dessus d'ailleurs, tant qu'à continuer à digresser. Eh bien, les podcasts Nanarland devraient plus tarder à reprendre. Martin a beaucoup bossé sur une émission qu'on avait en réserve avec des invités, et on est en train de programmer les enregistrements des suivantes. Donc, ne vous inquiétez pas, Nanarland revient. Donc oui, plein d'envies, plein de projets. Après, la limite, c'est de déjà terminer le projet autour des requins, parce que j'en ai quand même calculé au moins pour un an, même en traitant deux films tous les 15 jours. Et puis après, on verra. Et au passage, pour répondre à une question qui m'a été posée par Stéphane Fanguin, je pense que je m'arrêterai aux requins et que je vais pas, une fois que j'aurai terminé mon petit tour d'horizon, attaquer les crocodiles, attaquer les piranhas, les ours mutants, les sangliers garous. Enfin, je vais pas faire la totalité de tous les films d'attaque animale, parce que là, c'est complètement infini. Et puis qu'on arrive aussi à la limite du genre, c'est qu'il y a quand même une énorme tétrachier de films très mauvais. Et je vais quand même pas m'infliger ça toute ma vie. J'aime bien les films d'attaque animale, mais il faut savoir raison garder. Donc, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible sur l'animal. Après, j'essaierai de passer à autre chose. Parce que c'est pas les sujets qui manquent, c'est pas les envies qui manquent, j'ai pas envie non plus de m'en dégoûter. Alors, Switch Nintendo, ça c'est du pseudo sponsorisé où je m'y connais pas, Switch Nintendo donc me demande combien de temps il faut pour enregistrer un podcast en détaillant les étapes. Alors, je vais dire un petit peu de temps, parce que, bon bah la première étape c'est évidemment de sélectionner les films pour la fois d'après, donc, alors je les sélectionne en amont de l'émission, dans le sens où je les tire véritablement au sort, mais je ne les tire pas au moment de l'émission. Tout simplement pour pouvoir avoir le temps de vérifier leur disponibilité. J'ai d'ailleurs deux films que j'ai tirés au sort et que je n'ai pas pu traiter pour l'instant, soit parce que j'ai pas réussi à mettre la main dessus, soit parce qu'ils étaient vraiment à des prix prohibitifs pour choper un DVD en zone 1, avec une qualité d'image en plus qui était rien moins que déraisonnable. Donc, première étape, choisir le film. Ensuite, la deuxième étape, bah, ça va être de le revisionner. J'ai une belle petite collection de films déjà vus, mais j'en découvre encore des nouveaux. Donc je le visionne. Et ensuite, après le visionnage, je en profite d'ailleurs pour repérer les extraits éventuels que je pourrais récupérer. J'écris le texte. Mes textes sont écrits. Ils sont écrits à la main, parce que je suis vieux et que j'aime bien écrire à la main. Chronique habituellement me fait 4 pages et demie environ, ce qui me laisse quand même une petite marge pour improviser au micro, mais comme je bafouille beaucoup, je suis pas très bon pour l'improvisation pure, donc en règle générale, j'écris pas mal. Donc toutes mes chroniques sont écrites, il faut quand même une bonne heure pour écrire une chronique, une bonne heure et demie, je suis assez lent, hein, j'ai un petit peu de difficulté à écrire facilement. Ensuite, vient la phase de l'enregistrement, là encore assez longue, le plus long étant bien entendu le montage. Alors, pour des petites questions pratiques, au passage, sur quel matériel je travaille. Alors, je dispose d'un bon petit micro, un Bird UM1, avec un filtre anti-pop, qui hélas ne filtre pas suffisamment les sifflements à mon goût, mais un bon petit matériel. Je travaille ensuite sur Audacity pour l'enregistrement proprement dit. Le mixage se fait au final sur AVS Studio, AVS Audio Editor pour être plus précis, qui est un petit logiciel de montage assez simple, assez intuitif, qui me va bien parce que je ne suis pas un professionnel, et ce qui me permet de travailler. Alors, comme je le dis, je ne suis pas un professionnel, ce qui explique souvent les problèmes de son, notamment de constance du son, qui viennent moins en fait de mes réglages et de mon montage que du fait que j'ai tendance à bouger beaucoup devant le micro et donc jamais réellement garder la même distance, même au sein d'une même phrase par rapport au micro, donc ce qui peut expliquer de temps en temps que je suis obligé de faire des réglages de son. Alors au total, pour ne prendre que la partie technique, ça me prend une bonne partie du vendredi, parce que j'ai la chance de pas travailler le vendredi, être un peu seul à la maison. Donc, en règle générale, oui, ça me entre l'enregistrement proprement dit et puis le montage, ça me prend bien facilement 5-6 heures pour faire quelque chose de vraiment propre. Tant que ça reste un plaisir, je continue. Et pour répondre à Le Corbeau au passage, oui, je fais tout seul, entre autres parce que je n'aime pas les gens. Au passage, j'en profite pour répondre à une autre question de Max Aubert. Concernant la musique de film, j'utilise pas mal de musique de film, j'aime bien ça, notamment quand je corrige des copies. J'ai pas de site spécifique où je vais chercher des bandes obscures. J'ai un abonnement Deezer qui fait que j'ai quand même accès à un catalogue assez important et plutôt en bonne qualité. Et puis, mine de rien, quand je veux récupérer des musiques de films pour le podcast, j'ai deux possibilités. J'arrive à récupérer pas mal de choses sur YouTube, qui est assez bien fourni, y compris parfois en bande originale assez obscure. Et puis, quand il s'agit de sonoriser un petit peu l'arrière-plan du podcast, j'utilise le film original. Je récupère le générique de début, le générique de fin. J'essaie de récupérer quelques plages où il n'y a pas trop de dialogue pour avoir une musique en arrière-fond, qui parfois est un petit peu répétitive, puisque je suis obligé de faire tourner un peu les mêmes sons en boucle.
Toujours au creux des mers,
au creux des mers. Écoute-moi, je t'en ferai voir des mille qui ne cessent de chasser dans les bas-fonds de nos villes tous les noms favorisés.
Alors terminons par une série de questions un petit peu plus personnelles ou questions plus générales. Arthur Froment me demande d'où me vient ma passion pour le genre film de requin, et pour les vidéoclubs en particulier, et mes meilleurs souvenirs de vidéoclubs. Alors je pense que c'est quand même Les Dents de la Mer, hein, qui a été vraiment le choc que j'ai vu quand j'étais gamin, c'est même à tel point que quand j'ai eu un lecteur de DVD à la fin des années 90, le premier film que je me suis précipité pour acheter, ça a été Les Dents de la Mer. Alors vidéo club, j'ai vu pas mal de choses. J'ai bien écumé les rayons du bas de tout ce qui était horreur, aventure. Je suis très série B, je suis très bis, traditionnel, hein, même si je ne déteste pas le cinéma grand public et le cinéma d'auteur. Alors, je pense que vraiment mon souvenir majeur qui a fait de moi le déviant que je suis, ça sera et ça restera toujours la découverte de Devil's Story dans un petit vidéoclub perdu de Haute-Savoie. C'est véritablement là que je suis rentré en anardise, comme d'autres entrent au couvent. De façon plus globale, qui m'a fait voir un petit peu le cinéma sous un autre œil, sous un autre angle. Alors Seasons Fiction, un excellent podcast musical d'ailleurs, me demande si je suis plutôt Team Brody ou Team Hooper. Je suis Team Queen, bien entendu. Je suis le vieux loup de mer, enfin en tout cas j'aimerais bien l'être. J'avoue aussi avoir une grande affection pour le personnage un petit peu obsessionnel du chef Brody quand même. Mais bon, Robert Shaw en vieux loup de mer bourru, c'est quand même la classe. Oscar Acosta me demande si Joe Scott La Revanche, c'est le meilleur rôle de Michael Caine. Bien entendu que non. Tout le monde sait bien que c'est terrain miné avec Steven Seagal. Plus sérieusement, Michael Caine, c'est un grand acteur, mais comme pas mal d'autres, comme Christopher Lee aussi en son temps, il a connu un gros passage à vide où il tournait un peu dans tout et n'importe quoi du moment que c'était au soleil. Alors, s'il fallait retenir peut-être vraiment un film de Michael Caine plus ancien, parce qu'évidemment, ses collaborations avec Nolan sont excellentes, je prendrais La Loi du Milieu de Mike Hodge, un film des années 70, un polar noir de noir, qui a en plus cette patte anglaise industrielle de la fin donc, des années 70, et qui est vraiment excellente, et dont la musique fait partie aussi de mes extraits de BO préférés. Je l'ai mise un petit peu en fond là pour vous donner une idée. Une merveille. Seasons Fiction toujours me demande si je serais tenté par une petite balade en mer avec des requins, voire en cage, par plus de prudence. Alors oui, bien entendu, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Alors j'ai déjà pas mal pratiqué la plongée dans ma jeunesse, j'ai nourri des requins sur les récifs de coraux, j'ai vécu en Polynésie française quelques temps. Mais bon, c'était plutôt des petits requins de corail, donc pas très impressionnant. Oui, ça fait partie, on va dire, de mes envies, plonger au milieu des requins, espérant quand même que la cage soit solide. Quand même pas lancer un Patreon pour financer un voyage en Afrique du Sud. Là, je voulais lancer un Patreon pour pouvoir créer une ferme d'élevage avec des requins avec des lasers sur la tête, avec comme premier palier le fait que vous puissiez livrer votre pire ennemi aux requins à partir d'un million d'euros. Ouais, enfin bon. Oscar Acosta, toujours lui, me demande de glisser un petit mot sur le merveilleusement What the Fuck Crocodile Fury. Eh bien, je vais pas le faire ici parce que très certainement que sous peu nous en reparlerons sur Nanarland le podcast. Et donc, je ne vais pas déflorer trop ce film ici, mais on est quand même dans ce qui se fait de plus fou en matière de deux en un, c'est-à-dire de films remontés à partir d'un vieux film de crocodile thaïlandais auquel on ajoute des scènes de commando tournées à Hong Kong avec des acteurs occidentaux qui ne savent pas jouer. Le tout dans une ambiance complètement hallucinée. Guettez le retour des podcasts Nanarland sur Nanarland, puisque nous avons quitté, mais en bon terme, l'équipe de Riviera Ferraille, vous en saurez très certainement bientôt un petit peu plus sur ce merveilleux film. Quelques questions qui tuent pour terminer. Samuel Delacre de l'équipe de VHS et Canapé me demande si je suis plutôt mer ou montagne. Eh bien les deux, un peu par la force des choses, j'habite plutôt en montagne, puisque j'habite non loin de Grenoble et de Chambéry, dans un petit bled de 700 habitants, perdu au pied de la Chartreuse. Bon, à titre personnel, j'aurais peut-être préféré la mer, mais ma femme préfère la montagne. Donc il faut bien transiger à un moment ou à un autre, on a des lacs à proximité. Donc, comme j'ai vu que maintenant il y avait les Shark Lake, on s'en sort pas si mal. Question de Lord Samael, fondamentale. Slip de bain ou short de bain ? Short de bain, j'ai déjà défendu le shoot Bruxelles sur Twitter, je ne peux quand même pas deux fois défendre l'indéfendable. Voilà un petit tour d'horizon que je pensais faire un petit peu plus court, mais mine de rien, je pense que je vais déborder carrément de mon format habituel. Ce qui fait que je ne vais pas trop faire de recommandations pour me les garder pour la prochaine fois et tout de suite sauter au prochain film que nous allons traiter dans 15 jours. Alors, premier film, Cruel Joe's, les dents de la mer 5, de Bruno Mattei, 1995. L'opportunisme commercial à l'italienne porté au degré de l'art. Et puis, deuxième film... Ah, on en avait parlé tout à l'heure. The Reef, Andrew Traoki, 2010. Un film australien plutôt pas mal dans mon souvenir. J'espère que cette FAQ vous a plu et qu'elle a répondu à certaines de vos interrogations. En tout cas, nous nous retrouvons dans 15 jours pour poursuivre nos activités exploratoires habituelles. Eh bien... Vous pouvez retourner vous baigner.